has Jordan. Jordan with 2 seconds to go. Puts it up and scores at the buzzer. Michael Jordan has won it for Chicago. Michael Jordan hit the basket at the buzzer. As a hustle and Lenny Wilkins leads the floor.
Bonjour à tous et bienvenue dans Money Time, votre émission basket sur Graphite dans laquelle on décortique l'actu de la balle orange, on décrypte la culture basket sous toutes ses formes et dans laquelle on explore des dimensions parallèles étonnantes, tout ça sans langue de bois et dans la bonne humeur.
You guys not allowed. Nah, I'm just kidding.
What time is it?
Big time
hoop. My mentality was to go out and win at any cost.
Jordan is the most talented player in the NBA by far.
The show of the 90s, the team of the 90s.
How you feeling?
Whenever they speak Michael Jordan, they should speak Scottie Pippen.
We created an image that people want to live up to. I think that's all you can hope for.
Alors aujourd'hui, à quelques jours du début de l'ouverture de la saison NBA, on a choisi de vous proposer une émission spéciale sur le GOAT. Puisque aucune personne présente dans ce studio ne doute de son identité. Je crois qu'il n'y a pas de débat.
Pas de débat.
Pas de débat, ok. Le GOAT, pour l'éternité, il porte un maillot rouge sans floqué du numéro 23. Je pense que tout le monde est d'accord. Bonjour messieurs.
Bonjour.
Salut,
bonjour
messieurs.
Ça va, tout le monde va bien?
Yes.
Ça va.
Alors, pour réagir et compléter ou enrichir la discussion, hein, je vous rappelle que Money Time a désormais sa page Facebook, qu'on vous invite à découvrir et à liker, comme disent les Jones. Et au programme de cette émission, donc, et comme l'illustre parfaitement le magnifique visuel, je fais toujours un petit clin d'œil à Lord Byron Mike, allez le découvrir sur Facebook. Vous allez découvrir au cours de cette émission, alors on va essayer de faire le tour de la question, mais peut-on faire le tour de la question Michael Jordan, messieurs?
On peut essayer.
On peut essayer.
En une heure, ça va être difficile, mais en une heure.
On va essayer de vous apprendre des choses sur Michael Jordan, ce qui est pas forcément évident, puisque il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Mais au programme de cette émission, vous aurez des échanges sur la légende, à travers notamment une critique de The Last Dance, hein, la série consacrée au dernier titre NBA des Chicago Bulls, et forcément centrée sur MJ. Un quiz du Gosbo spécial et pointu concocté par Mehdi pour tester vos connaissances sur Sa Majesté. Notre globe-trotteur attitré Cyril qui nous emmène aux abords du Chicago Stadium, pardon, du United Center, théâtre des plus grands exploits de Jordan pour une découverte sculpturale.
Ouais.
Qui dit Jordan dit marque, business, logo. On abordera avec Bruno l'histoire d'une Jumpman, cette silhouette devenue aussi populaire que la virgule de Nike ou les trois bandes d'Adidas.
C'est sûr.
Voilà. Et enfin, pour faire de la transition avec le Can You Dig It de Rémi, qui va arriver en cours d'émission, bah, le daron du street sur Compiègne nous inaugurera sa rubrique avec justement une spéciale sneakers pour évoquer la mythique et iconique paire de Jordan 1. Alors, pour vous présenter, messieurs, hein, parce que vous savez que j'aime bien vous faire un petit coucou pour commencer l'émission, on va commencer. Alors, vous allez devoir découvrir de qui je parle. Voilà.
Suspect.
Vous savez, c'est toujours en partant de points communs avec Michael Jordan.
Ah,
okay,
oula,
oula. Donc, de Jordan, il a cette propension à trash-talker à tout va, sauf que lui ne peut pas se le permettre. Voilà.
Salut les potos.
On est direct, c'est pas drôle. Ok, alors, de MJ, il tient son style aérien, mais ses coéquipiers médiocres le condamnent à l'anonymat.
Bon, ça va être Cyril, ça.
Cyril.
Ouais,
Cyril.
Ok, bah, je prends, merci. Merci
pour le rien.
Salut les gars.
Mais nous, on n'est pas à rien.
Alors, on aura un guest, je le présenterai après. Ben, il devrait arriver aussi en cours d'émission.
MJ en personne.
Je crains le pire.
Ouais, ouais, ouais. Il a des points communs aussi, lui, avec Michael Jordan. Il a pour seul point commun avec Michael Jordan le salaire. À la minute, par contre, pour Jordan.
Et encore, pas sûr.
Voilà. Voilà. Donc forcément, c'est...
C'est moi.
C'est Bruno.
C'est moi.
Et du côté du numéro 23, il a en commun son côté mégalo, tyrannique et une paire de Jordan 6 dans sa jeunesse.
C'est toi.
C'est Wham.
C'est toi. Voilà.
Exactement. Allez, c'est parti. On commence l'émission.
First of all, there's no backstabbing going on here.
It's time for me to move on.
This will be Phil's last year as the coach of the Bulls.
Are the expectations way too high?
Where do we go from here?
The only question, how long can it last?
Comment appréhender la série The Last Dance qui retrace la quête du sixième et dernier titre de Michael Jordan? Est-ce qu'on peut la voir comme une série documentaire sportive, une des plus belles de tous les temps, parce qu'elle retrace ni plus ni moins que le parcours exceptionnel de celui qui est sans doute, alors peut-être débat avec Mohamed Ali, la plus grande légende de l'histoire du sport? Tout le monde est d'accord?
Ouais,
je pense. Est-ce qu'on peut la voir comme une hagiographie, c'est-à-dire, alors on va faire du vocabulaire, hein, c'est une œuvre de propagande destinée à flatter l'ego ici d'un empereur, hein, quitte à estomper des zones d'ombre et des traits de personnalité peu glorieux et en contradiction avec le statut d'icône d'un sport, d'une époque, d'un label.
C'est possible.
C'est vrai aussi. Hein. De toute façon, c'est produit par Jordan. Donc,
Ou bien est-ce qu'on peut l'avoir aussi comme un divertissement à l'américaine, simplement un show dans lequel le héros réussit ses exploits en tirant des entraves qui lui barrent le chemin, une énergie et une motivation surnaturelles. Le tout évidemment ponctué d'affrontements et de faits dramatiques qui tireraient la larme à un crocodile. Et bien pour se faire une idée, je vous propose une petite critique maison. The Last Dance, ce sont 10 épisodes réalisés par John Ayer, à la base pour la chaîne sportive américaine ESPN, et diffusés en plein confinement par Netflix. Un recours d'images, d'archives, d'interviews et de confidences de Jordan lui-même et des acteurs sportifs, journalistiques, voire politiques, qui ont été témoins de ses épopées. On a quand même deux présidents américains qui apparaissent, l'un pour évoquer Jordan, l'autre pour Pippen. Eh ben, on retrace la carrière du numéro 23 des Bulls, de sa draft en 1984, par les losers de l'époque, hein, les Chicago Bulls, statut qu'ils ont malheureusement récupéré ces dernières années. Et ce, jusqu'à sa retraite, la deuxième est quasi définitive. Puisque, évidemment, presque tout le monde a oublié que, dans la quarantaine, MJ est réapparu sous le maillot des Washington Wizards, la seule chose positive qui soit d'ailleurs arrivée à cette franchise maudite.
Depuis 30 ans.
Depuis 30 ans, voilà. Alors, disons-le tout de suite, il existe un prérequis au visionnage de cette mini-série remarquable. C'est désactiver l'AVF. Peut-être le pire doublage qui ait jamais été associé à une œuvre, si on fait exception de Ken le Survivant.
C'était fait exprès, Ken le Survivant. C'était pour nous dégoûter de Ken le Survivant.
Ouais, c'est pas fou. Ou alors on a Hélène et les garçons. Ah pardon, c'était pas doublé, c'était juste ces acteurs qui étaient mauvais.
Bonne vanne.
Alors si vous refusez d'entendre des « Michael réalise un smash main gauche » ou « De quel vol de Jordan ?» quand il pique la balle
Patrick
des Mac Malone.
Montel au commentaire.
Voilà, activez la VO et les sous-titres, vous vous épargnerez volontiers une bonne otite. Alors disons-le franchement, The Last Dance, ça se regarde dès lors, avec avidité, pour le plus grand plaisir des connaisseurs autant que des néophytes. Hein. Si ma femme et ma fille ont aimé, alors qu'elles se lanceraient plus volontiers sur un The Last Dance avec les stars, c'est que la série réussit cet exploit de mettre les performances du numéro 23, les coulisses, les bifs et les dramas à la portée de tous. En filigrane des courses pour le titre, on se penche successivement et pour chaque épisode sur une personnalité déterminante pour la dynastie. Krause, Pippen, Rodman, Phil Jackson, Kukoc et une multitude d'intervenants. La réalisation, si on en parle, est très soignée et je ne sais pas si vous l'avez apprécié comme moi, mais le choix d'une narration qui ne soit pas purement chronologique.
Ah, c'est ça, par contre, c'est ce qui peut être compliqué pour les néophytes.
Oui, pour les néophytes, parce que c'est vrai qu'on fait des sauts dans le temps.
Si tu ne sais pas quel est vraiment l'ordre chronologique,
tu peux être perdu.
Tu peux être un peu perdu, ouais. Donc, entre flashback et flash format, pour mettre en parallèle donc, les deux épopées des Bulls, hein, les trois titres de 91 à 93, puis les trois derniers de 96 à 98, et entre les deux, la première retraite. Le tragique assassinat de son père, la carrière éphémère au baseball et la sortie de The Jordan Rules. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à l'époque, le livre a osé ébrécher le piédestal de Michael Jordan et ça avait fait couler beaucoup d'encre en plus de celui qui était imprimé. Alors rapidement, c'est ce qui s'est le portrait d'une personnalité très complexe que les stéréotypes et l'imaginaire collectif ont altéré. Hein. On se retrouve à mots couverts devant une problématique qui pourrait être formulée dans ces mots pour des candidats au bac philo. La victoire peut-elle s'acquérir à tout prix ?
Je crois qu'il a répondu à cette question, lui. Hein.
Peut-on prendre appui sur les autres, voire les piétiner, pour s'élever jusqu'au ciel ?
Ça, c'est moins vrai.
Ouais, c'est
il
pas
a eu quand
vrai,
même
ça.
Besoin des autres pour gagner.
C'est ce qui a fait la différence. Hein. 91, à partir de 91.
Il a compris qu'il ne pouvait pas gagner tout seul.
Les icônes doivent-elles sacrifier leur humanité pour obtenir l'adoration éternelle des masses ?
Non.
Non.
Il a piétiné les gens, mais il est resté dans notre cœur quand même.
Évidemment. Alors, pour essayer de répondre à ces questions durant la série et témoigner à la barre, on a des gentils. On a Steve Kerr, l'actuel entraîneur des Golden State Warriors et dernier sélectionnaire de Team USA. Ex-coéquipier martyrisé par MJ, hein, comme bien d'autres, mais heureux de son parcours. Peut-être victime du syndrome de Natasha Kampusch, la fille qui a été séquestrée par son bourreau et qui y est attachée. Moi, je vois un peu comme
c'est
ça.
Quoi, c'est syndrome d'Oslo, ça. C'est quoi, ça ?
Moi, je le baptise Natasha Kampusch. Hein. On a Phil Jackson, alors entraîneur légendaire des Bulls, puis des Lakers, le Master Zen qui reste l'un des rares, quand même, c'est à noter, à réhabiliter justement le travail de Jerry Krause, le manager sportif accusé injustement de tous les maux de l'Illinois. On a également du Magic Johnson, hein, toujours souriant, admiratif, parfois complaisant avec son pote, ou du Larry Bird, un peu cinglant dans ses remarques, toujours chambreur.
Toujours, et sur la deuxième marche, il aime pas ça.
Ah oui, hein. Et on a évidemment les méchants, alors bien représentés par un Dennis Rodman, précieux pour la défense, mais incontrôlable en dehors des parquets, hein. On en parlait avant l'émission. Isaiah Thomas, son ancien acolyte des Bad Boys de Détroit, qui restera le mec que tout le monde adore détester.
Un vrai méchant, lui.
Oh, on touche pas à Détroit.
Isaiah Thomas, ouais, j'y touche. Je préfère Bill Laimbeer dans le genre. Tu vois, il a assumé, il allait jusqu'au bout.
On pourrait pas tous les lister, mais on a aussi et surtout ce pauvre Jerry Krause qui est constamment humilié par Jojo et puis un Pippen qui lui reprocha de lui avoir fait signer une merveille d'arnaque de contrat à long terme, mais au bénéfice des Bulls, hein, clairement.
Si. Bah, ouais.
Les Bulls n'auraient pas été les Bulls si Krause n'avait pas fait ce travail. Mais je pense, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, que le plus gros méchant de l'histoire, on finit par se demander si ce n'est pas MJ en fait lui-même. Parce qu'on a quand même droit à des facettes qui sont peu reluisantes, d'un Jordan souvent puant et ingrat, refusant qu'une ébauche de renouvellement soit envisagée pour appréhender un futur qui s'annonce inéluctable, hein, sans lui. Humiliant les autres avec un sadisme glacial, tirant de chaque esquisse de manque de respect ou d'adoration de la part des autres joueurs, une raison supplémentaire de vaincre, de se dépasser.
Ouais, mais c'est là en fait que The Last Dance c'est bien, parce qu'il se met pas non plus tout le temps en valeur. Hein. Et il l'assume aussi son côté, j'écrase les autres, j'aime bien les humilier. Vous êtes moins fort que moi.
Il en tire une énergie.
Mohamed Ali, tu parlais de Mohamed Ali, je pense pas que c'était un mec. Hyper tendre dans le...
Non, alors on pourrait débattre sur justement la différence entre Mohamed Ali et Jordan, mais il y a une attitude un petit peu...
Toujours le côté politique, arrogante,
etc., qui fait partie du personnage. Alors, entre les deux, on a des journalistes, des joueurs, on a Kukoc ou Scottie Pippen, qui sont pas toujours présentés sous leur meilleur jour, surtout pour Pippen, souvent lucide après coup. Un propriétaire, Reinsdorf, qui joue à l'équilibriste, qui tente de justifier ses choix, des choix qui étaient imputés à Krause justement, alors que le boss était quand même bien lui, Reinsdorf, il savait tout ce qui se passait. Et on a les témoins comme Sam Smith, l'auteur décrié donc, du livre dont on a parlé, The Jordan Rules, et sa source identifiée, Horace Grant, l'ancien ailier fort mythique de la première trilogie, Alors qui était vexé par les allégations de Jordan et qui lui a proposé de régler ça entre hommes à la sortie du documentaire quand même.
Ouais. Ah ouais.
On a aussi, alors c'est plus anecdotique, mais Ahmad Rashad, le visage médiatique de la NBA dans les années 90, un pote de Jordan qui n'est pas non plus super bien placé dans l'objectivité. Ouais. Bon. Et puis on a, alors ce qui est dingue, c'est les présidents. On a Obama et Clinton, hein, excusez du peu quand même, hein, pour témoigner à quel point His Highness a transcendé son sport en y faisant infuser du business, de la culture, de l'entertainment. Car avec du recul, messieurs, qui a fait ça ? Michael Jackson avec la musique ? Léonard de Vinci avec le génie ? Jean-Marie Bigard avec le mauvais goût ? Hein ? Alors, les anecdotes, elles ne manquent pas. Hein. Draft de Jordan manqué par les Nets. Flou Game ou MJ aurait été, c'est un des points de vue discutables de la série, mais intoxiqué plus ou moins volontairement à Salt Lake City.
Ça, c'est le
Jazz.
Pizza Game ou le Flou Game.
Voilà. Retraite, addiction au pari, compétitivité maladive. Donc, Michael Jordan n'est pas un saint, c'est pas un modèle dans tous les domaines. Et The Last Dance, pour moi en tout cas, je le vois comme l'esquisse d'un être humain dépassé par son talent, porté par la gloire et une soif pathologique de victoire, et puis aussi une susceptibilité trop exacerbée pour souffrir le moindre crime de lèse-majesté. Quoi. Il est difficile d'être ami avec MJ. Barkley et Pippen, ils sont nombreux à s'en être éloignés de leur propre chef ou d'avoir été écartés de sa cour par sa majesté. Le roi est humain, mais il ne peut être Dieu. Mais, pour conclure, quand on regarde les dernières minutes de la série, portée par le magnifique Present Tense de Pearl Jam, dont vous avez entendu les notes en fond, les images, les voltiges, les trophées, les pleurs, tout ça dessine une vision magnifique d'un firmament sportif, rarement atteint, parce que trop haut, sauf pour Michael Jordan. Messieurs, petit avis ?
Ouais, moi, cette série, je l'ai mangée. Hein. C'est, il n'y a pas d'autre mot.
C'était le contexte en plus. Tu vois, c'est tombé au moment du Covid, moment, quoi, du confinement. Ils nous ont fourni ça. Enfin, c'était un truc. Ouais.
Mais moi, la partie la plus folle que j'ai trouvée dans ce documentaire, c'est la sortie de Rodman. Mais c'est, aujourd'hui dans tout sport collectif, c'est impossible. Le mec, il est arrivé.
Tu peux expliquer en quelques mots, très rapidement.
Il est arrivé sur un entraînement. Il a dit qu'il en avait marre de jouer en pleine saison. Et en fait, tous ses collègues ont admis qu'il lui avait donné 3-4 jours pour se ressourcer. Et puis, il est parti à Las Vegas, mais il est revenu 15 jours après, bien accompagné. Il s'est fait déchirer par tout le monde et Phil Jackson, mais sans trop rien lui reprocher. Il y a juste un petit commentaire en lui disant « maintenant, il faut que tu assumes ». Et il a fait la meilleure fin de saison de sa vie. Il a écrasé les playoffs talent. C'est un...
Psychologiquement, si Rodman, toi, il a fait des tentatives de suicide. Enfin, c'est un mec. Il explique que, toi, ils l'ont retrouvé dans sa bagnole au bord.
C'est quelqu'un d'instable, totalement.
Exactement.
Puis tu les vois les bières dans le vestiaire après les matchs. Tu les vois fumer. Tu les vois. Enfin, c'est le sport professionnel des années 90. Et
est-ce que d'ailleurs ces images étaient sorties à l'époque? Parce qu'en fait, les images de The Last Dance, on en connaissait certaines, elles sont sorties après coup. Quoi. C'est vrai qu'aujourd'hui, on regarde ça avec une espèce de professionnalisme sportif très aseptisé, où le moindre écart, il est pointé du doigt. Ouais. Aujourd'hui, Jordan, il raconte même quand il est arrivé aux Bulls que dans les vestiaires, il y avait de la coke, il y avait des prostituées, il y avait de l'alcool, et que voilà, lui, il n'a pas voulu.
À Chicago, c'était la ville d'Al Capone, à un moment.
C'est une ville historique, c'est clair.
Et pour revenir sur cette année, l'année est dingue parce que c'est vrai que tout le monde passe au niveau des interviews et on sent réellement ce que tu dis Pippen il en a pris. Moi je trouve qu'il tente quand même dans le reportage de le réhabiliter et de le remettre vraiment à sa place. Ouais. Vraiment, il le dit pas ouvertement, mais on sent bien. Qu'il a beaucoup de respect et qu'il sait très bien qu'il n'aurait pas gagné sans lui.
Bien sûr. Ouais.
Et c'est.
Vu de l'extérieur, toi, j'ai pas trouvé qu'il était méchant avec Pippen, quoi.
L'acharnement sur Cross, tu sens aussi qu'il est lié à un soutien envers Pippen.
Envers Pippen, c'est ça.
Messieurs, on a notre entrée de notre guest, nos deux guests. Donc, je vous un petit coucou à Candice qui vient d'arriver et à Buffa. Clarisse, pardon, excusez-moi. Pardon, Clarisse. Je voulais juste te présenter en disant que tu as le même sourire carnassier que lui, tu as la même couleur de peau que lui, mais ça s'arrête là, je crois. On est d'accord, hein, enfin, voilà. Ok, et voilà, comme ça c'est lancé. Je vous propose une petite pause musicale avant d'attaquer la rubrique de Mehdi juste après. Hein.
My shirt, my hat, my books, my trip to the zoo, my couch, remote, a large coke, yeah, I get on my knees. My God, if I could, I would give anything, I would give anything, I would give anything, I would give anything, I would get to be you. My job, my car, my cash, my house on the hill, my piano, I burn to ashes, yeah, I get on my knees. My God, if I could, I would give anything, I would give anything, I would give anything, I would give anything, I would get to.
Très joli titre qui s'appelle Michael Jordan, signé du groupe Five for Fighting. Je crois, sans pouvoir dire de bêtises, que c'est le seul bon titre de ce groupe d'ailleurs. Mais voilà, je suis pas toujours très objectif. Allez, on enchaîne tout de suite avec la rubrique.
Cuisse du Cosmo, cuisse du Cosmo. Quiz du Cosmo, quiz du Cosmo.
Ça, c'est de l'intro. Ouais. Alors, vous l'avez plébiscité, hein, c'est quelque chose vraiment qui marque, qui est vraiment un label de cette émission, c'est le quiz du Cosmo. Il revient apporté par le Julien Lepers de cette émission.
Eh oui, 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 oui.
Alors, personnalité instable, comme vous l'entendez, mais attachante. Mehdi va permettre à chacun dans ce studio, dans le confort d'un canapé simili-cuir poltronné sofa à la maison, ou dans l'habitacle confiné de votre voiture, de tester sa culture MJ. Mehdi, on t'écoute.
Salut les potos, alors on y va pour un quiz de l'expert spécial MJ. Et je vais essayer de vous faire découvrir des petites choses que vous connaissez pas, parce qu'on va parler à des experts, et en vous posant certaines questions. Alors comme vous savez, Jordan est drafté en 84 à la troisième position, parce que évidemment Hakeem the Dream a été numéro 1, il n'y a pas de débat. Mais donc il signe son premier contrat avec les Bulls sur 7 ans, ce qui est déjà une belle arnaque à l'époque. Donc sur 7 ans, mais pour combien de millions de dollars au total sur les 7 ans?
On a le droit.
Ouais, 15, 25 ou 5? Bah, faut que ça aille vite, les gars.
15.
Ouais, c'est 5 millions de dollars sur les 7 ans.
Sur 7 ans. Faire un point. Cyril, un point. Tu fais les comptes, hein, d'accord? Caris, tu comptes les points.
Ensuite, okay. Donc comme vous le savez, il est triple champion NBA deux fois. Mais sur la saison 96, donc quand il revient, il devient enfin, donc de 84 à 96, il ne l'est pas, le joueur le mieux payé de la ligue. Et il signe un contrat avec les Bulls mais à combien par an, sachant qu'il avait signé 5 millions sur 7 ans. 30. En 96, combien il signe son contrat pour une saison? 12 millions, 26 millions ou 30 millions la saison?
30 millions.
Ouais, 30.
Ouais, je dis 30.
Il prend 30 millions sur une saison. Alors qu'il en avait pris 5 sur ses 7 premières
années. Aujourd'hui, 30 millions, t'es un joueur correct. Hein. Ouais. T'es un bon joueur.
Ouais, et pour finir sur l'aspect financier, donc au total, dans sa vie, on estime qu'il a gagné 3,5 milliards de dollars.
Ça va.
Mais savez-vous combien il en a gagné en jouant au basket? Juste en jouant au basket, en millions de dollars. Donc c'est 94, 126 ou 158 millions de dollars. Sur les 3,5 milliards, combien il en a
126.
Gagné
126.
94, imagine.
146, allez le mieux.
Bah, c'est 94 millions. Il a même pas gagné 100 millions de dollars en jouant au basket.
Oh, le petit joueur.
Bel homme d'affaires, quoi.
T'as dit Tobias Harris, il doit rigoler quand tu entends ça.
Et là, tu disais, Rookie, toi, Wemby, je crois qu'il touche 10 millions l'année. Donc il y a aussi une modification des je pense qu'ils ont modifié les premiers contrats rookies parce que tu vois pas 5 millions sur 7 ans.
Bah oui.
Ouais.
Bien sûr. Wemby, deuxième année est déjà à 10 millions.
Non, et puis surtout ce qui apporte c'est les droits télé internationaux hein, ça s'est explosé là, c'est les dernières décennies, c'est normal.
Alors ensuite on continue. Alors sur ses débuts, pourquoi Michael Jordan vice Ernest n'a pas joué sa première année universitaire? Parce qu'il avait des problèmes de comportement? Parce qu'il était trop petit ou il avait trop de retard répété à l'école?
Ouais, j'ai envie de jouer les retards, moi.
Petit, trop petit.
Ouais, j'avais des problèmes de comportement.
Ouais. Non, il était trop petit. Son coach n'a pas voulu lui en donner l'équipe.
Et comme moi.
Parce qu'il était trop petit. C'est un truc de dingue. Quand on voit le talent.
Il a grandi beaucoup.
Quand on voit le talent. Ils l'ont pas pris. Parce
mais c'est l'histoire de la draft. Hein. Pourquoi il arrive en troisième? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est parce qu'il faisait pas. Celui d'avant, il fait 2m15, 2m16.
Il était mauvais.
Mais il était plus grand. À l'époque, on prenait les plus grands.
Sur les finales de son premier three-peat.
Ouais.
Juste sur les matchs des finales, combien est sa moyenne de points sur les matchs de la finale?
Bon, 35. Plus de 30 déjà.
Ouais, je dirais 36.
Non, vous êtes bon, hein, vous l'avez lu ou quoi?
Non, non.
35,6 points par match
jusque-là.
Ouais. En finale NBA, ouais. Sachant que ça ne tournait pas sur des scores très, très hauts. Quand ils arrivaient à 90, c'était le grand...
Oui, c'est vrai que ce n'était pas les mêmes standards de score.
Et beaucoup moins de 3 points.
Ouais, aussi, c'est vrai.
Sur l'intro, t'en as un peu parlé, mais c'est quand même une phase importante de sa vie. Que se passe-t-il au match 5 des finales en 97 face au Jazz?
Le fameux flu game.
Le fameux flu game. Alors l'histoire officielle de Michael Jordan, c'est que la veille, il se fait livrer une pizza dans sa chambre.
Par 10 mecs. Ouais. Par 10 mecs dans la chambre pour livrer la pizza.
Donc il mange et ça aurait été un petit peu contaminé.
Ouais.
Et le lendemain, il se réveille et il ne voit plus les mouvements. Il voit plus les mouvements de ballon et autres. Et il veut déclarer forfait sur ce match, mais une demi-heure avant le match, il décide d'aller jouer.
Ouais.
Et puis il joue comme d'habitude en fait. Donc il est pas bien. À chaque fois qu'il y a un temps mort, il revient en se disant je suis pas bien. Et puis il a gagné le match quand même.
Ça se voit quand même. Tu te vois physiquement, ça se voit qu'il a de la fièvre. Ouais, tu vois qu'il est marqué.
Mais Mehdi disait que c'était peut-être parce qu'il avait fait autre chose. En fait, il avait peut-être fait la brague avant. Et... C'est vrai qu'on a la version officielle, mais.
Il faut de la volonté.
Et puis l'image de Pippen qui le soutient à la fin, elle est belle, je trouve.
Ouais, très très belle.
Elle est incroyable.
Il va le chercher. Ouais. C'est vrai qu'elle est magnifique cette image. Ouais.
Allez, les amis, on va voir si vous avez bien fait votre devoir. Combien de fois a-t-il été meilleur marqueur de la ligue sur toutes les saisons qu'il a faites?
Ah, sur toutes les.
5.
Sur toutes les saisons qu'il a faites? Ah non, 10 fois.
Ouais, 10 fois, allez, Paris, je te rejoins.
Bah, 10. Ouais, c'est bien.
Incroyable.
Bah, dis donc. C'est du pif.
C'est à la louche, quoi.
Non, mais Jordan, pour être clair, tu rentrais dans ma chambre quand j'avais 14-15 ans, il n'y avait que du Jordan partout, quoi. Ouais, même ma mère, elle le connaissait. Hein.
Le poster en taille réelle. Je l'avais mis dans le garage.
Mon père. Il faisait 1m98.
Et je prenais même des tics que je tirais la langue pour un rien. Quand je sautais un peu, je tirais la langue.
Et
j'ai failli perdre la langue.
Tu sais à quoi c'est dû, ça?
Il y avait soif.
Non,
c'est un hommage à son père.
Ouais. Parce que quand il bricolait, il avait toujours la langue tirée.
Ouais,
donc en fait, quand il jouait et qu'il allait faire des dunks pas trop mal, il tirait la langue.
Ouais,
il tirait la langue. Allez, copains, on y retourne. Le jour de ses 40 ans aux Wizards, lors d'un match contre les Nets, on est sur deux lourdes équipes. Hein.
Ouais.
Le jour de ses 40 ans, combien de points a-t-il marqué?
50.
Non.
42.
43. Allez, je te l'accorde. Un point près, c'est beau. 43 points.
Il faut voir la moyenne qu'il avait encore à 40 ans, la moyenne de points.
Mais bon, après, LeBron James, il fera pareil. Hein.
Non.
Il jouera à 80 ans, il marquera 80 points.
Son fils, pas sûr, par contre.
Non, on a dit,
pas la famille, pas la famille.
On a dit, on n'en parle pas.
Ok. Tiens, je te fais une coupure. Blague pour Manu qui nous écoute. Comment fait-on pour transformer Jordan en loser? Bah, tu prends Jordan.
Poule. Jordan, poule.
C'est bon. Dédicace, Manu.
Allez, une dernière question un peu plus pointue pour mes experts, là. Combien a-t-il porté de numéros au cours de sa carrière et lesquels sont-ils? Il y a une histoire incroyable sur ça.
Alors, évidemment, le 23.
Le 23, je suis d'accord.
Après, on sait qu'il y a le 45.
Ouais. Le 45, d'accord.
Moi, je connais l'histoire du 12.
Ouais.
Après, est-ce qu'on met le 9,
Team USA? Le 9, ouais. Ah, voilà, c'est les 4. Donc, c'est les 4, ouais. Et l'histoire du 12, l'histoire du 12, elle est incroyable. Ouais, elle est c'est bien. Un match à Orlando. Ouais. Et en fait, pendant qu'ils vont se préparer, en fait, ils partent, donc ils sortent du vestiaire. Et il y a un mec qui rentre dans le vestiaire et qui pique son short et son maillot. Et il se barre. Et en fait, il pensait ne pas pouvoir jouer. Et c'est l'intendant qui retrouve un vieux maillot dans le 12, sac. Quoi. Et c'est le numéro 12. Et il fera un match avec le numéro 12 dans toute sa carrière.
Il y a quand même Jordan derrière. Ils ont eu le temps de le floquer.
Non. Il joue juste avec le 12. Ah ouais. Il joue juste avec le 12. Et le mec, il s'est fait piquer son maillot. Et c'est là qu'on voit que le sport professionnel a bien progressé quand même. Parce qu'ils partent quand même au moins avec deux jeux de maillot au cas où.
C'est clair.
C'est ça. Bah, vous avez été bon, vous avez été très
merci
bon
pour le quiz.
Merci Mehdi, et ça va nous permettre de faire une petite transition. On va voyager avec Cyril et sa chronique. Alors c'est la rubrique tourisme avec Cyril, notre guide des salles NBA, globetrotter invétéré qui a quand même expérimenté toutes les salles et ambiances NBA et qui nous emmène aujourd'hui à Chicago. On t'écoute.
Oui, exactement les gars, je vous emmène tous à Chicago dans l'Illinois, pour rappel. Et donc j'avais envie de vous parler pendant quelques minutes de la statue de Michael Jordan, parce que vous savez que Michael a sa propre statue. Ouais. Et donc je vais vous expliquer rapidement la genèse. Donc en fait, tout commence avec l'annonce de sa retraite, en fait. Le 6 octobre 93, ça a vraiment été l'étincelle pour la statue de Michael Jordan. Et donc les Bulls pensent que sa retraite sera définitive. Et pour le remercier de sa fidélité depuis 1984, pour rappel, et ses 3 titres consécutifs qu'il vient de réaliser avec son équipe, les Bulls décident alors de lui ériger tout simplement une statue, voilà, quelque chose qui restera à vie. Et donc c'est en janvier 1994 que les Bulls choisissent un couple de sculpteurs, le couple Amrani, mari et femme, donc ce sont des spécialistes en leur matière, et donc on leur fait confiance pour confectionner cette statue de Michael Jordan. Alors ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ils vont rendre régulièrement visite à Jordan, mais en fait, ils vont le rendre visite dans le stade de baseball, puisque Jordan vient d'annoncer sa retraite. Ouais. Et donc, pour prendre des photos et pour prendre les mesures...
C'est pour ça qu'il a un casque.
C'est ça. Ça fait quand même bizarre, ce casque.
Et donc, ça se passe chez les White Sox. Donc, c'est assez drôle de se dire que la préparation de la statue a eu lieu pendant cette période. Et donc, au moment de la conception de la statue, en fait, le timing est parfait parce que les Bulls vont acquérir une toute nouvelle salle. Donc, comme tu l'as dit en début d'émission, c'est le United Center. Et donc, ils se sont dit, c'est l'endroit idéal pour poser la statue de Michael Jordan. Excusez-moi, j'ai un petit blanc. Et donc, la salle, le United Center va ouvrir en août 1994. Et donc, comme je vous disais, c'est l'endroit idéal pour poser la statue. Au début, le couple de sculpteurs va imaginer une statue de Jordan avec un panier de basket. Mais finalement, ils décideront rapidement d'enlever ce panier de basket et de garder Michael Jordan dans le mouvement, en train de dunker. Après 9 mois de travail, c'est le 31 octobre 1994 que la statue sera terminée et installée en extérieur, c'est important, du côté est du United Center, devant la porte numéro 4. Donc quand on voit les photos, il y a écrit « Gate 4 ». Le lendemain, le 1er novembre 1994, c'est une date ultra importante dans l'histoire des Bulls, puisqu'il y a, c'est un double événement. Donc 1er novembre 1994, inauguration de la statue de Michael Jordan, et c'est aussi le retrait du numéro 23 aux Bulls. C'est-à-dire qu'à partir de cette date-là, plus personne ne pourra porter le numéro 23, excepté s'il a l'accord Du joueur.
D'accord, ok. Donc, je savais qu'il y a d'autres clubs aussi qui ont retiré le numéro 23. Par exemple, le Heat de Miami, ouais. Tu peux pas porter le 23 en hommage à Jordan.
Exactement. Oui, c'est pas les seuls, je crois. Et je suis allé me renseigner et les Washington n'ont pas retiré le maillot de Jordan. Il n'y a que Bulls et
Miami. Ils sont vraiment cons jusqu'au bout. Ouais.
Bravo, bravo Washington.
Une occasion.
Ouais, une occasion de faire un truc bien.
Ils l'ont pas fait. Ouais. Donc concrètement, parlons de la statue. Donc en fait, elle est posée sur un immense cube de granit noir d'1,50 m de haut. Alors sur le cube est inscrit Michael Jordan, Chicago Bulls, 84-93, et évidemment plus tard sera rajouté 95-98. Et il y a une citation en anglais où il y a écrit « The best there ever was, the best there will be », ce qui signifie « Le meilleur qu'il n'y ait jamais eu, le meilleur qu'il y aura pour toujours ». Donc en gros, la statue, elle clôt le débat sur qui est le GOAT,
ouais,
c'est Michael Jordan.
Objectif.
Ouais. Voilà. Okay. Sur les trois autres faces sont inscrits toutes ses statistiques, tous ses titres et tous ses records personnels. Donc vraiment, en faisant le tour de la statue...
Ah ouais, t'as de quoi lire.
Ouais, ouais, ça peut prendre 10 bonnes minutes à tout lire. Ensuite, au-dessus de ce cube, il y a la statue. Donc elle est faite en bronze et elle mesure 3,60 m.
Ah oui, putain.
Soit au total un monument de plus de 5 mètres. Donc vraiment le
ah ouais, elle est vachement grande. Moi, je croyais qu'elle était plus petite que ça.
Non, le monument est vraiment imposant. La statue est en bronze. Donc, elle représente Jordan en mouvement en train de dunker main droite sur un défenseur. Et ça reprend le fameux logo du Jumpman. On en parlera tout à l'heure. La statue est aussi surnommée The Spirit, en faisant référence à l'état d'esprit de Michael Jordan, bien connu. Jusqu'en 2016, la statue était en extérieur, devant l'accès numéro 4. Et en 2017, le United Center va souffrir une extension côté est de 16 000 mètres carrés qui va s'appeler l'Atrium. Donc en fait, l'Atrium, il va servir de billetterie. Ça sera aussi une énorme boutique de produits dérivés. Et on décide bien évidemment de placer la statue de Jordan en plein milieu de l'Atrium, en respectant son emplacement historique, devant la porte 4. Ça, d'accord, c'est important. Et pour terminer, donc pour ceux qui seraient du côté de Chicago, sachez que vous pouvez contempler la statue gratuitement tous les jours de la semaine de 10h à 17h.
Après, c'est payant.
Après, c'est fermé pour revenir à 10h. Et puis, je finirai cette histoire en souhaitant un bon anniversaire à cette statue qui va fêter ses 30 ans dans pile 2 semaines. Ah ouais. Donc bon anniversaire à la statue de Michael Jordan.
C'est vrai que c'est une salle qu'on voit pas beaucoup parce ouais. que en fait comme ils ont des pubs, tu sais, sur leur parquet qu'on n'a pas le droit de diffuser en France, c'est très rare que Bein montre les images de Chicago et de l'extérieur. Ah, okay. Du coup, on voit jamais.
Je crois que c'était parce qu'ils étaient mauvais qu'ils les mettaient.
L'alcool, non, c'est l'alcool.
Bah non, parce que en fait ils ont été très contents que le play-in ne se joue pas à Chicago pour pouvoir leur transmettre, parce que okay. sinon ils avaient pas le droit de.
Je connaissais pas cette anecdote-là.
Match à Chicago.
Ok.
Si tu veux. Quand ils font même voir les highlights et tout, là, en fait, ils floutent toute une partie du parquet où il y a une pub interdite en France.
Ok, d'accord. Bah, tu m'aurais ouais, t'aurais dû le mettre dans le quiz.
Et tiens, tu nous avais, on avait discuté un petit peu avant ça, et tu m'as dit, on se posait la question, quels joueurs ont une statue ? Parce que moi, je suis fan de Dwayne Wade. Il va y avoir une statue de Dwayne Wade qui va bientôt être installée à Miami.
Ok. Kobe en a une aux Lakers.
Donc Kobe en a une.
Alors justement, ouais. Je me permets de rebondir. Merci pour ta question. Le couple dont je vous ai cité, je vais retrouver le nom. Le couple
Amrani.
Ouais. C'est eux qui ont fait la statue aussi de Shaquille O'Neal au Staples Center. Okay. Ils ont fait la statue là dernièrement de Kobe. Vous savez qui lève le doigt vers le ciel.
Ouais.
C'est eux aussi okay. qui ont fait la statue. Et après, pour répondre à ta question, je sais qu'il y a Stockton et Malone qui ont leur propre statue.
À Utah. Hein.
À Utah. Alors, je ne sais ouais. pas qui l'a faite, ces statues.
C'est pas moi.
Et après, je ne sais pas si les gars, vous avez d'autres exemples de statues.
Non, je
sais
pas. Non,
pas. Bill Russell n'a pas une à Boston ?
Ouais, il y en a dans les rues, en fait. Bill Russell, t'en as une, Dan Auerbach.
Ouais.
Ah si, il y a Dirk Nowitzki qui a une statue à Dallas,
à Dallas
où
aussi,
il fait son ouais. fameux shoot un peu fade away en
c'est
arrière.
C'est dans les rues, c'est rigolo, à Boston, tu peux t'asseoir à côté du,
d'accord.
Du coach ouais, légendaire.
Ouais, légendaire. Moi, il paraît qu'à la Croix, ils sont très traditionnels sur une statue pour moi, je vous le dis tout de suite les gars. Soyez pas choqués quand vous arrivez
petite.
À la salle. Une toute petite.
Ah, déjà qu'il n'y a pas assez de place de parking.
Ah,
ouais, déjà que les places sont petites.
Mais, petite pause musicale pour faire le débat. Can't touch this. Touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me. What am I doing? You can't
can't touch this. Yeah, that's how we living and you know, can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks and bands, you got it like that, now you know you wanna dance. So move out of your seat and get a fly girl and catch this beat while it's rolling. Hold on, pump a little bit and let the noise go on like that, like that. Hold on a minute, don't fall on back, let them know that you're too much. And this is a beat they can't touch. Yo, I told you, you can't touch this. Why you standing there, man? You can't touch this. Yo, sound the bell, school is in, sucker. You can't touch this. Give me a song, a rhythm, making them sweat. That's what I'm giving them now. They know, you talk about the hammer, you're talking about a show that's hot and tight. Singles are sweating, so fast them a white or a tape. To learn what it's gonna take in the 90s to burn the charts. Legit, either work hard or you might as well quit. That word, because you know, you can't touch this. Can't touch this. Break it down. Stop. Hammer time. Go with the flow. It is said if you can't groove this, then you probably are dead. So wave your hands in the air. Bust a few moves. Run your fingers through your hair. This is it. For a winner. Dance to this. And you're gonna get there. Touch this. Look, man, you can't touch this. You better get a hype, boy, cause you know you can't touch this. Ring the bell, school's back in. Break it down.
Ouais, merci, MC Hammer. C'est super sympa. Vous écoutez Money Time, l'émission estampillée basket et culture NBA sur Radio Graphite Compiègne 94.9 www.graphite.net. Money Time, c'est l'émission qui malaxe l'actu du basket, qui la pétrit et qui la fait cuire 20 minutes au four comme du bon pain. Allez, on enchaîne tout de suite avec la rubrique de Bruno. Un petit bug. Bon alors le morceau s'appelle Jumpman. Donc Jumpman, je suis désolé pour Buffa, c'est Drake.
C'est Drake ça.
Ah non, il va pas sortir. Ouais. Eh oui, ouais. Alors justement, dans cette nouvelle rubrique, on vous propose de décrypter le graphisme des logos mythiques de l'univers NBA et forcément, quoi de mieux que le titre Jumpman de Drake et Future. Il y a Future aussi dedans. Pour annoncer Bruno et son zoom sur la silhouette iconique de Jordan, dont Lord Byron Mike, dont on en a parlé tout à l'heure, nous a proposé la photo originale pour teaser de l'émission. Bruno, on t'écoute. Tu veux nous parler de tout ça ?
Salut à tous. Ouais. Avant de parler du Jumpman, je vais essayer de parler aussi, de remettre un peu dans le contexte de la fameuse franchise de MJ. On ne parle pas des frelons ou des magiciens, là. Des magiciens d'Oz, là, que tout le monde connaît. Mais bien des taureaux, quoi. On va parler un peu de l'histoire des taureaux. Parce que les taureaux, en fait, c'est une vieille franchise, quand même, les Bulls. Donc c'est quand même assez intéressant parce qu'au début ça a commencé, c'était les American Gears, donc de 1944 à 47. Il y a eu les Stags à Chicago jusqu'en 1950, les Packers en 61, et puis après l'équipe est renommée les Zephyrs et ils déménagent à Baltimore en 64. Et donc après il n'y a plus trop d'équipes de basket parce qu'en fait à Chicago c'est quand même une ville où il fait super froid. Le lac Michigan est régulièrement gelé et donc ils préfèrent le hockey sur glace que le basket. Ouais. Ça prend pas trop le basket. Mais ils arrivent quand même à intégrer la NBA en 66. Mais il faut payer une grosse somme d'argent parce qu'en fait le boss de la NBA veut pas de Chicago NBA. Ouais. Donc Et en fait le logo a été créé dès cette époque de Chicago. Il est quasiment inchangé, mais c'est un peu le même en parallèle que le Jumpman. C'est des logos qui sont restés fixes, en fait. Il y a eu peu d'évolution.
C'est vrai que graphiquement, tu as beaucoup d'équipes qui ont changé leur approche. Les Clippers, elles ont changé récemment.
Après,
aussi.
Ça customise un peu. Enfin, le taureau a un peu customisé tout ça. Le Jumpman, c'est un peu pareil. Tu as eu quelques petites, mais c'est vraiment des retouches vraiment minimes. Ouais. Quoi. Ouais. Et c'est rigolo que le parallèle entre les deux logos, c'est qu'ils n'ont pas évolué. Et donc en fait, bah, ce qui est, il est rigolo aussi, c'est sur la première équipe des Bulls, il y a des petites anecdotes, c'est que le premier donc, qui est capitaine un peu de l'équipe des Bulls, c'est Jerry Sloan.
Ah oui,
qui est originaire de l'Illinois.
Ancien coach de Utah Jazz.
Et c'est, le, donc c'est un ailier, c'est le leader des Bulls de 66 à 76. Et après, il devient entraîneur des Bulls de 79 à 82.
D'accord.
Et faut pas oublier que bah, Jerry Sloan, c'était qui ? C'était le coach des Jazz, de Stockton et Malone. Donc, il perd les deux finales de 97 et 98 face à son ancienne équipe des Bulls.
Okay.
Et j'avais pas non plus connaissance de ça, que Jerry Sloan avait été une relation si proche avec Chicago. Et puis, bah, le premier entraîneur, c'est un autre truc rigolo, il s'appelle Johnny Red Kerr. Et Kerr, c'est comme Steve Kerr.
C'est son papa.
Je sais pas si c'est son
père.
Son père était militaire. Il était militaire de carrière, je crois. Ouais. Il est né en Europe, je crois, d'ailleurs, Steve Kerr, ou un truc comme ça.
Il était diplomate, il me semble, son papa. Il était tué dans un attentat.
Donc, comme Steve Kerr, qui a rentré le shoot gagnant donc, en 97 contre les fameux Jazz sur une passe décisive de...
MJ.
Et donc, bah, le nom de la franchise, d'où ça vient les Bulls, bah, ça rend hommage aux abattoirs. En fait, c'était une ville qui était renommée pour tous ses abattoirs.
Ils auraient pu s'appeler les Côtes de Bœuf, quoi.
Et bah ouais, bah je vais te dire, ça a été. Il y a des trucs bizarres. Parce qu'en fait, c'est la plaque tournante donc des abattoirs de la viande bovine produite dans le sud du pays et qui venait à destination des zones urbaines sur la côte atlantique. Donc il y avait énormément d'abattoirs. Et après, sur l'origine du nom, bah t'as. Au début, ils ont tâtonné un peu. Enfin, c'est parti sur les toréadors, les matadors, les conquistadors.
C'est parti.
Et puis, à un moment, il y a le fils du propriétaire qui a vu les joueurs de basket, qui a été impressionné par la taille et la carrure des basketteurs et qui a dit « Oh papa, c'est une bande de taureaux !» Alors, anecdote vraie ou pas, je sais pas. Mais c'est comme ça, apparemment,
j'aurais
qu'on arrive au taureau de Chicago.
À l'époque, j'aurais dit une chose.
Sans commentaire.
Et là-dessus, le président... Le propriétaire des Bulls, il dit « Ouais, c'est bien les taureaux, mais moi je veux qu'il y ait du sang. Je veux du sang sur le logo. » Et vous savez où il est le sang ? Vous l'avez déjà vu ?
Sur le haut des cornes.
Ouais, sur le haut des cornes.
Et bah ouais,
mais je l'ai appris il y a 2 ans. C'est récent.
Il y a Buffa qui est en train de regarder sa casquette.
Et t'as le rouge, ça c'est du sang en fait. Faut s'imaginer que c'est le sang. Mmh. Bon, et après, bon voilà, comme ça on arrive au logo des Chicago Bulls que Buffa...
arbore fièrement dans ce style.
Et bon, après, sur le côté donc des baskets, il faut s'imaginer que dans les années 60, c'était géré par beaucoup les Converse. Donc, ils jouaient tous avec des All-Stars. Donc, bon, il faut s'imaginer jouer avec
confort,
des All-Stars. C'était hyper confortable.
Ah ouais, je m'étonne.
Dans les années 80, tu as Puma et Adidas qui commencent à s'intéresser au marché de la basket et qui prennent un peu. Et en 1984, il y a un fameux James Worthy qui joue à North Carolina avec un certain MJ. Ouais. Et qui signe un contrat de 1,5 million de dollars avec New Balance. Et il a le même agent que MJ. Et MJ, bah, par la même occasion, il signe un petit contrat de 2,5 millions de dollars avec Nike. Et dans ce contrat, bah, y a une ligne de chaussures à son nom et une ligne de vêtements.
Alors je ne sais pas s'il va nous en parler Rémi après, mais au départ le rêve de Jordan c'était de signer avec Adidas. Hein.
Totalement, c'est la marque qui faisait rêver les joueurs à l'époque. Ouais.
Il avait refusé Nike au début. Ouais.
Et c'est sa mère qui a poussé pour que d'ailleurs il y a un très bon film. Ah bah vas-y,
j'en parle après.
Ouais.
Et donc là c'était 84, donc il faut s'imaginer que 84 c'est aussi les JO de Los Angeles.
Ouais.
Et donc MJ il va faire partie de l'équipe américaine et donc il est photographié par le magazine Life. Dans sa fameuse posture, où il écarte les jambes. Mais il faut se dire que, déjà, si vous avez vu la photo originale, ben, il n'y a même pas des Nike au pied, il a des New Balance.
Oh putain, je sais pas.
Et il dunk même pas non plus, en fait, c'est un montage. Il a dit, non, quand on lui a expliqué, il dit non, c'est pas possible de dunker c'est comme ça. Moi, j'étais sur place, j'ai sauté.
Moi, j'ai essayé, c'est pareil.
Et le gars, il a fait une photo, il a fait un montage avec le panier derrière. Il a juste sauté en écartant les jambes.
Ouais.
Et donc voilà.
C'est resté cette photo.
La photo est restée iconique.
Ouais, bien sûr.
Mais c'est même pas un geste de basket entre guillemets.
Donc normalement sur le visu, parce que j'ai pas fait gaffe à paire de pompes, sur le visu de Lord Byron Mike qui parraine l'émission. Donc comment il porte des New Balance, c'est ça ?
Apparemment, sur la photo originale, mais elle a été modifiée entre deux.
Ah, d'accord.
Et d'ailleurs, le mec a fait un procès, le photographe d'origine, en 2015, il a fait un procès à Nike en disant « Bon, ça commence à bien faire, là. J'aimerais bien avoir un petit... C'est moi qui ai fait la photo,
on me demande. Ok.
Et donc, bah, le drafté en 84, la Air Jordan 1, elle sort en 85, mais elle sort avec le Wings logo. Bon, là, je vais pas faire la suite, je vais pas trop en dire là-dessus parce que c'est pas le.
Ouais, bah, tu. Je sais pas,
le
parce
Jumpman
que.
Qu'on connaît.
Il n'arrive pas. Rémi n'arrive pas. Rémi, s'il nous entend, viens vite.
Donc ouais. Là, ça, bah là, ça représente plus. T'as un ballon de basket ouais. Avec des ailes sur les côtés.
Ça ressemble à.
Au-dessus,
je sais pas. Ça ressemble un peu au ouais. Comment dire, au logo d'Aerosmith, je trouve.
Ouais, ça fait un peu.
Moi, j'aurais dit une compagnie c'est aérienne.
C'est pas, c'est pas, ouais, mais ça fait ça.
Bah, c'est à moins de gueule, hein, je trouve.
Sur la Air Jordan. Ouais.
Sur la Harley, ouais. Et Mehdi vient de regarder, là, sur la photo, donc ouais. Le visuel de l'émission, et ben c'est bien des.
Des Nike.
Des Nike, voilà. Donc, c'est
ils ont modifié. Mais la photo d'origine, ouais, le gars avait des New Balance. Mais c'était. Okay.
C'est marrant cette, cette mode des baskets, puisque c'est vrai que moi je me souviens encore quand j'ai commencé à m'intéresser au basket, Converse avait, alors ils étaient passés à autre chose que la All-Star heureusement, mais ils avaient des joueurs emblématiques, Magic Johnson notamment, et Larry Johnson, je ne sais pas si vous vous souvenez, Larry Johnson avait, j'avais sa paire de pompes, ouais, j'avais eu sa paire de pompes, j'étais super content, et j'ai joué deux fois pour anecdote avec, et la semaine elle s'est arrachée. Donc voilà, quoi, j'aurais mieux fait de mettre des All-Star.
C'est important hein, cette période, parce que ça fait quand même une bascule hein, dans la Ligue,
ouais.
Parce que c'est là où les joueurs comprennent qu'ils peuvent, signer des contrats perso avec les équipes entières et avoir un revenu complémentaire.
Et ça améliore les performances aussi. Hein. Je pense que ça a dû changer aussi au niveau technique le jeu. Quoi.
Bah, jouer avec des sabots. Hein, Okay. Bon,
ces fameuses chaussures, les Air Jordan, si tu veux que j'en parle un peu, des One, mais.
Bah, écoute, normalement, Rémi devrait nous en parler, donc, mais tu peux, on peut
donc
continuer.
Tu avais
un truc intéressant à dire sur le film Air, c'est ça hein.
Ouais, bah après. Bon, je vais te laisser sur les One. De toute façon, moi, je suis pas un expert des sneakers et tout ça. Mais en fait, il y a la Jordan One en 85, la 2 en 86. Mais le Jumpman, il apparaît que sur la 3 en 88.
Ah, intéressant.
Ah ouais, okay. C'est
il apparaît pas avant, quoi.
Ouais.
Et apparemment, d'après les puristes, ça serait la meilleure pompe, la Jordan 3, ça serait la mieux, quoi.
La meilleure. Ouais.
En termes de quoi? De design, ouais, de confort
design,
ou tout
de, ouais.
Le design, ok.
Ouais.
la 9.
Attends, t'as le catalogue devant nous. Moi, c'était la 6 que j'avais. Tu vois, la 6 là sur le papier là. Putain, moi, je dormais avec. Ouais, c'est la 6, ouais.
Ah, c'est vachement radiophonique là ce que tu fais.
Il y en a pas qui voient.
Bah, allez voir.
Allez voir l'histoire des sneakers Air Jordan entre 85 et 2000.
Ouais.
Bah, après, bah, puis penser de logo, c'est répandu un peu partout parce qu'on le voit
sur le maillot notamment, du PSG maintenant.
Space Jam aussi, ils apparaissent, normal, les Jordan 9 dans Space Jam, dans les Jordan 13 dans He Got Game de Spike Lee.
Il a des rêves le petit. Hein.
Et puis,
il a travaillé.
Et puis, le logo il évolue un peu, notamment pour sa marque de une écurie de sport.
Salut les gars.
La Michael Jordan Motorsport. Où là, le logo est t'as le Jumpman entouré, cerclé quoi.
D'accord, oui, c'est vrai qu'il y a des variantes.
Et donc,
il y a Rémi qui arrive là.
Salut Rémi, bienvenue.
Voilà, bravo, il arrive juste à l'heure pour parler. Voilà.
Salut, ça va,
comme il a fait un peu les baskets, tu vas pouvoir parler chaussettes. Ça va, salut, ça salut Mike.
Ça
bon, il y a du monde dans le studio et donc on a la chance d'accueillir. Bruno, t'as fini ou...
Il y avait juste
non, vas-y,
la référence
termine,
du hein. film, c'est Air, ça s'appelle Air en fait.
Ouais.
Et c'est
Ben Affleck.
C'est réalisé par Ben Affleck. Apparemment, c'était dispo sur Prime Video et ça explique toute la signature du contrat. Ouais. Puis il y avait une dernière petite anecdote, c'est que MJ il a re-signé, il a joué quand même avec ses Jordan 1 au Madison Square Garden pour son dernier match.
Ah, c'est beau, belle histoire.
Et il a fini.
Les pieds en sang.
Hein.
Ouais. Moins belle histoire.
Et là, tu faisais la liaison entre les pieds qui ressemblaient à des côtes de bœuf et le logo des Chicago.
Et le sang sur les cornes des Bulls.
Et bouclé. Allez, on introduit la rubrique Sneaker Pimps de Rémi. Vous êtes toujours à l'écoute de Money Time, c'est un mercredi, c'est deux mercredis dans le mois, c'est ça hein.
Oui, premier et troisième mercredi du mois.
Ok, je vais allumer le cinquième micro, Buffa, Lord Byron Mike, parce qu'il y a un cinquième micro qui est là-bas, c'est bon.
Vous êtes là. Donc, vous avez compris, hein, c'est Rémi qui prend la suite, enfin qui prend la suite, qui termine l'émission.
Il fait la transition.
Ah, donc, voilà, c'est ça exactement. Et Pascal, enfin WAM, c'est ça.
Ouais, c'est WAM.
Hein, c'est WAM. Hein, m'a demandé de faire une petite rubrique sur les sneakers. Et là, en l'occurrence, on parle de Michael Jordan. Et il se trouve que moi, je suis un fan de Jordan. Forcément, enfin,
comme tous les basketteurs, tous les basketteurs.
Quoique, tu sais qu'il y a des jeunes hein, aujourd'hui, tu sais, Jordan.
C'est un problème d'éducation, oui, c'est toujours pareil. Hein, tu sais,
c'est un problème. C'est la claque qui fonctionne bien. Ouais, ouais.
Mais voilà, tu sais, l'éternel débat. Mais en fait, plus ils sont jeunes et moins il y a de Jordan. Jordan, ça devient plus une marque en fait pour eux. Tu vois, nous, ici, on l'a vu jouer, donc forcément. Voilà quoi. Enfin bref, la Jordan 1. On commence avec la Jordan 1, la paire mythique, la paire qui a lancé, j'ai envie de dire, toutes les paires de sneakers, qui a même, j'ai envie de dire, lancé Nike. Hein. Nike, hein, c'est grâce à Jordan. Hein. Donc voilà, elle est sortie en 1984. Il faut savoir que Jordan, au début, il faisait la gueule à Nike. Hein. Tu vois, Nike, à l'époque, dans les années 80, c'était plus Adidas et Converse. Voilà, Converse qui
Magic Johnson,
ouais. Larry Bird,
ouais, et les plus gros, hein, ils avaient.
Voilà, ouais, c'est ça. Ouais.
Chamberlain avait joué en Converse.
Et Adidas, je sais plus qui, mais.
Alors tiens, bonne colle.
Ah, Buffa qui est là.
Abdul-Jabbar.
Ouais, et d'ailleurs Mutombo, qu'on en parlait, ouais, parce que c'est Adidas, hein, Mutombo. Ouais, et donc voilà, bon bref, la 1984, donc la Air Jordan 1 sort. Ça a été compliqué pour Nike. D'ailleurs, tu parlais du film Air, et dans ce film-là, ils expliquent plutôt pas mal de choses. En fait, c'est la maman de Michael qui l'oblige presque à aller voir
les représentants de Nike.
Ouais, exactement. Pour lui, et Nike lui propose un contrat mais de ouf. Tu vois, 5 fois plus, comment dire, plus.
Oui, que la moyenne, ouais. C'est, ouais.
En fait, ils expliquaient.
C'est tapis rouge.
Ils expliquaient que, à l'époque, les marques misaient sur plusieurs joueurs.
Ouais, c'est ça, exactement.
Alors, Nike,
ouais.
Ils disent, nous, de miser sur 5 gars, on va tout mettre sur un seul.
All-in.
Et hop. Voilà. Bingo.
Fallait bien choisir.
Du coup, voilà. Donc, en fait, la Air Jordan 1 s'inspire de la Nike Ship, je crois. C'est une montante, hein, c'est une sneakers montante Nike, hein, de base, qu'on connaît tous plus ou moins. Après, il y a les déclinaisons, les Dunk, les Terminator qu'on voit dans le film Terminator. Voilà. Et donc, Michael Jordan va jouer avec ça. Voilà, parce que il accepte finalement la proposition de Nike. Donc c'est quoi? C'est 500, que je dise pas de bêtises, 500...
500 balles.
500... non, c'est 500 millions de dollars par an, un truc comme ça.
Pas sur le premier contrat.
C'est pas 500 000.
C'est quelques millions.
À mon avis, si c'est 5 millions, c'est déjà énorme à l'époque. Ouais.
Moi, je dirais 2 millions 5, perso. Mais bon.
Tu étais à 2 millions 5.
Ouais, voilà, 2 millions 5.
Bah, c'est pas mal, hein.
Sûr, c'est pas. Ah, ouais. Ok, vous aurez compris, hein, j'ai rien préparé pour. je parle avec ma.
Ton cœur, c'est
voilà, mon
cœur, bon.
Ma passion. Air Jordan 1, donc 84. Après, il y a toute une histoire sur les Air Jordan 1, à savoir qu'en fait, elle est devenue hyper connue parce que Michael Jordan avait interdiction. Avait interdiction de les porter parce qu'à l'époque, en NBA, il fallait porter des chaussures blanches. Enfin, il fallait une grosse majorité de blancs sur les chaussures. Et les Air Jordan 1, rouge et noir. Donc voilà, en fait, il les a portés une fois. À l'époque, c'est David Stern, hein, je crois, qui lui met une amende ou un truc comme ça. Il y a une histoire là-dessus. Et il lui interdit, à chaque fois qu'il les met, c'est une amende de 5 000 $. Mais apparemment, c'est une légende. Parce que
moi de ce que je sais, c'est que ça a duré 6 ou 7 matchs, et en fait ça lui fait une telle pub
et Nike a fait une pub avec en disant que c'était un signe de rébellion, quoi.
Voilà, et c'est ça exactement, c'est ça l'histoire, c'est que en fait la NBA donc interdit Michael Jordan de les porter, et la pub justement on voit donc Michael Jordan avec ses chaussures. Et d'un seul coup, tu vois des briques noires sur les chaussures.
Band.
Et et voilà, c'est sa banne. Ouais, c'est sa banne. Et qui dit ouais, la NBA interdit Michael Jordan de les porter, mais ne vous interdit pas de les porter vous. Donc du coup, à chaque fois que tu portes les Air Jordan 1, ça fait voilà, c'est ça. Et c'est à partir de là que la Air Jordan est devenue, en fait, ça faisait signe de rébellion. Donc voilà, voilà.
Eh, écoute, c'est super.
C'est celle que tu as sur ton t-shirt.
C'est, voilà, exactement. C'est celle que j'ai sur mon t-shirt. Alors, ça, c'est les Air Jordan qui avaient été dessinés justement pour le match. Pour le match. Parce que ça, c'est les blancs, c'est aux couleurs de Chicago, en fait. Il fallait une majorité de blancs. Donc, avec celle-là, c'est celle-là qui l'a porté finalement pour. Ah oui, je crois qu'il les a portés pour le premier concours de dunk.
Oui.
C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. C'est à partir de là que. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Et il est donc, Bruno disait qu'il les a aussi portés pour son dernier match au Garden.
Ouais, c'est ça. Et c'est en 98 qu'il les a portés.
Il finit avec les pieds en sang.
Ouais, ouais.
Il aimait bien jouer à New York. Clin d'œil, la boucle est bouclée.
Bah, de toute façon, je compléterai tout ça avec la rubrique.
Il y aura d'autres paires de godasses que tu vas nous présenter à l'occasion.
Oh, t'inquiète, présent.
Il y a quand même quelques iconiques. Et... En tout cas, merci beaucoup.
Je te rends l'antenne, Pascal, et puis t'inquiète.
Au revoir, on fait juste la transition.
Vas-y.
De toute façon, il faut rester sur graphique parce que là, il y a du lourd qui arrive dans le studio.
Tu m'as dit ça pour Jacques ou quoi?
Moi, je ne veux pas me fâcher avec Jacques. Je ne veux pas me battre avec. La dernière fois, on s'est battu. Voilà, je lui ai fait vachement mal. Donc,
c'est parce que je l'aime beaucoup, pour ça.
Ok, alors, les gars, en tout cas, un grand merci. C'était une super émission. C'est vrai que on pourrait encore en faire 18, hein, je pense, sur Jordan. Je pense que Lord Marrow Mike, il va en avoir marre des visuels. Un grand merci à tout le monde. On est 57 dans le studio, donc c'est cool. Et ça permet de faire la transition sur Can You Dig It, The Radio Show.
T'inquiète,
faut travailler à sa place. Ouais, c'est dingue. Ok, on vous souhaite à tous une très très bonne soirée et en fait on presse l'antenne tout de suite.
Salut les potos.
Ciao.
Salut,
6 novembre, juste pour terminer, 6 novembre, si je dis pas de bêtises.
Reprise.
On fait une émission spéciale sur la reprise de la NBA. On va passer au crible les joueurs, les équipes à suivre. Et puis avec notre mauvaise foi.
Les super trades.
Et voilà, on touchera tout ça.
Paul George est déjà blessé, impeccable. Ouais, super. Quel trade de ouf, fan.
Allez, ciao à tous.
Salut.
Salut.